Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour terminer, Cœur de patrimoine, cette semaine, on reçoit Stéphane Van Uffel pour SVH Conseil. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric.
Merci d'être sur le plateau. C'est la rentrée, on a passé un bon été, on a découvert sa petite note fiscale en passant dans sa boîte mail ou dans son espace.
On a reçu sa taxe foncière.
Ouais, et bien évidemment, ça nous a fait atterrir parce qu'il y a toujours cette espèce de sujet fiscal à la rentrée, pimenté. On en a parlé tout à l'heure avec Benoît Lombard d'une éventuelle loi de finances rectificative qui va nous remettre tout ça aussi dans l'esprit. Bon, c'est le bon sujet à aborder pour se remettre dans le bain de la rentrée, la fiscalité.
De toute façon, historiquement, un bon conseiller en gestion de patrimoine ou un bon conseiller en investissement financier vous dira que après l'été, on fait un petit point de toute façon sur ses placements et évidemment sa situation fiscale qui reste quand même le sport national, puisque une grande majorité des Français met en numéro un comme problématique patrimoniale sa fiscalité. Voilà. Donc, en ce moment, les marchés, ils sont comme ils sont. Donc, évidemment, on a besoin de voir nos clients pour faire des petits arbitrages, peut-être qu'ils avaient fait avant l'été, remettre tout ça avec une vision plus long-termiste à la rentrée. Mais historiquement, vous l'avez rappelé, le mois de septembre, après le mois de mai des déclarations, le mois de septembre, c'est l'avis d'imposition. Donc, c'est le moment où les clients qui n'ont pas compris ce qui s'était passé au mois de mai lors de leur déclaration, alors maintenant que le prélèvement à la source, ils sont de plus en plus rares.
Ouais. Mais puis le c'est quand même bien fait, la dernière étape.
Voilà, mais là, histoire d'aller jusqu'au bout des bonnes nouvelles, le climat va bien, on est au mois de septembre, c'est le bonheur, on faisait la rentrée après les vacances, on se rappelle à l'ordre et on met en place sa stratégie fiscale, on va dire plutôt défiscalisation, et on réfléchit à ce qu'on va faire. Ça, c'était historique. Évidemment, ça l'est encore plus en termes d'actualité.
Voilà, parce qu'il y a nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre, et donc forcément, des idées qui vont... Enfin, il y coupera pas.
Vous savez comment c'est en France, quel que soit le Premier ministre. Alors maintenant, on sait qui c'est, donc on va voir quelle va être la feuille de route. Mais là, de toute façon, depuis le début, avec le départ de M. Attal, on savait que c'était les recettes qu'ils avaient visées comme moyen de remettre tout ça à plat, ou en tout cas d'essayer d'équilibrer les comptes. Donc à partir du moment où c'est les recettes, ça veut dire les impôts, les entreprises étant pas mal ponctionnées déjà, les particuliers vont être visés, de quelque façon que ce soit, la flat tax, la progressivité de l'impôt. On a même entendu le retour du sacro-saint ISF. Donc évidemment, plus que jamais, là je le redis, un bon conseiller en gestion de patrimoine ou un bon conseiller en investissement financier se doit de rappeler à l'ordre ses clients sur le sujet. S'ils n'ont rien fait, il faut faire quelque chose. Et s'ils ont déjà fait quelque chose, est-ce que c'est adapté à la situation et à ce qui va se passer dans les prochaines semaines?
Et on va essayer de donner donc de bons conseils, même si on rappelle que le conseil doit être personnalisé, etc. Et que donc ça ne va être que quelques pistes de réflexion. Non pas forcément pour tailler dans l'impôt, mais pour essayer de le faire intelligemment, on est d'accord? C'est-à-dire se dire, on va certes travailler la fiscalité, mais à base d'investissement, c'est pas autrement, et notamment avec un produit qui a priori va s'arrêter, qui tire sur la fin, c'est le Pinel.
Vous savez, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Cédric, c'est un sujet, l'immobilier, et la loi Pinel est l'héritière d'une multitude de lois
qui a été remise de dispositifs,
qui a été clairement remise en question par les gouvernements successifs des derniers mois. On a vu les conséquences extrêmement positives, et c'est évidemment très cynique ce que je dis sur l'immobilier neuf et les permis de construire. Moi, ça me tient à cœur parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier et que je pratique ces dispositifs, et que quand ces dispositifs sont bien faits, c'est-à-dire, je le rappelle, ça va faire sourire, baisser ses impôts, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'investissement. L'alpha et l'oméga, c'est l'investissement. Et grâce à ces dispositifs, parce qu'on choisit d'investir dans l'immobilier neuf en loi Pinel et qu'on va le mettre en location pour faire la résidence principale de quelqu'un qui a des revenus qu'ils sont plafonnés pour avoir accès à ce dispositif, vous donnera un avantage fiscal pour finalement vous donner l'envie de prendre ce risque plutôt que de faire de l'immobilier classique comme on le fait tous à côté. Donc c'est une loi qui, quoi qu'on en dise, et l'héritière de dispositifs qui ont été très utiles quand ils sont bien faits. Et si vous voulez payer moins d'impôts tout en faisant quelque chose d'intelligent, je le rappelle, de l'investir dans l'immobilier locatif dont on a besoin, c'est un excellent dispositif. Et là, figurez-vous que, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, pour la première fois pour de vrai, l'idée que ça s'arrête, vraisemblablement, elle est arrivée très clairement sur le tapis. Bon, donc jusqu'au 31 décembre, vous avez la possibilité de profiter de ce dispositif. Je ne vais pas parler du dispositif classique de la loi Pinel, dont l'avantage fiscal a été, on va le dire, dégradé ces deux dernières années sur de l'immobilier qui respecte des normes environnementales maintenant qui datent un peu, puisqu'on parle de réglementation thermique 2012. Je vais vous parler du Pinel Plus, avec les normes énergétiques 2020 qui font que vous achetez la Rolls de l'immobilier en termes thermiques, phoniques, etc. et qui maintiennent des avantages fiscaux extrêmement importants. attention, il ne faut pas viser que l'avantage fiscal. Et jusqu'au 31 décembre, bah, vous avez quelques opérateurs qui ont pris les devants il y a déjà plusieurs mois et qui ont des vrais stocks d'immobilier extrêmement poussés en normes énergétiques, donc d'extrême qualité, pour prévoir une revente dans 10, 15 ou 20 ans où il y aura aujourd'hui un immobilier qui n'existe pas en 2024. Et vous avez non seulement un avantage fiscal très important, mais en plus, Cédric, puisqu'on arrive au bout, il y a des petites choses éventuellement à négocier avec le promoteur.
On peut discuter.
Évidemment.
Ouais.
Voilà, donc,
mais on n'oublie pas que la discussion, l'avantage fiscal, l'éventuelle petite ristourne qu'on arrive à avoir, ou le frigo offert, ou ceci, cela, ça n'est rien à côté de l'emplacement. L'emplacement, on n'achète pas n'importe quel queue de programme, n'importe où,
exactement,
parce qu'il y a un frigo offert.
Mais on ne l'achète pas de toute façon parce que d'abord, il y a une réduction d'impôt. Parce que c'est ce que disais, hein, le problème a commencé, c'est ça. Donc, on garde les mêmes réflexes que si on investit dans l'immobilier. Attention, on sait que c'est de l'investissement, allez, à grande majorité neuf, même s'il y a de l'ancien réhabilité, mais quartier en devenir, donc attention au terme quartier en devenir, soyez très prudents. Maintenant, l'avantage fondamental sur la RE 2020, c'est-à-dire cet immobilier extrêmement pointu d'un point de vue énergétique, c'est que ça n'existait pas il y a 18 mois. Oui. Donc les programmes qui commencent à être livrés ou ceux qui sont en cours de commercialisation, c'est-à-dire 80% ne sont même pas encore lancés en termes de travaux, c'est un immobilier extrêmement performant. Donc les promoteurs qui se sont lancés là-dessus ne sont pas ceux qu'on aurait pu connaître il y a des années et qui évidemment finissaient la télé à côté de la déchetterie, plein nord, près de l'autoroute. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est vraiment sur... Alors, évidemment, le prix va avec. Mais j'invite les gens qui payent des impôts à se pencher sur ce sujet. Un, pour payer moins d'impôts. Deux, potentiellement bénéficier de cet effet d'aubaine des trois derniers mois. Les taux sont en baisse, donc ça vaut le coup d'y aller. On n'est plus sur du totalement aberrant en termes de tarification. Et surtout, pensez que cet immobilier-là, dans un marché de tension locatif inédit historiquement, aujourd'hui, pour trouver un logement lorsqu'on est locataire, c'est très dur, il n'y aura pas de risque de location et vous revendrez un immobilier très pointu dans 10, 12 ou 15 ans. Donc, je pense que tout est réuni pour le faire intelligemment et ne pas le faire que pour payer moins d'impôts.
Et vous ne vous excluez qu'il y ait un... On ne sait pas encore le nom du futur ministre du logement, mais qui a un nouveau plan.
Je n'exclus rien.
Parce qu'on a eu du Robien, du Périssol, du Besson.
Mon avis, Cédric, c'est qu'a été prorogé un dispositif, on va pas y revenir aujourd'hui, qui s'appelle le dispositif de Normandie, qui avait les mêmes avantages fiscaux en termes de montant de réduction, mais sur non seulement de l'immobilier ancien réhabilité avec travaux, dans une liste de villes réduite en France. S'il doit y avoir quelque chose piloté par Monsieur Barnier, il me semblerait logique qu'on soit sur de la réhabilitation, parce que c'est quand même beaucoup de mètres carrés en France qui sont pas aux normes, qui devraient l'être.
De ville et autres, et qui mériteraient.
Je suis pas inquiet pour les investisseurs. Il existe d'autres dispositifs également au-delà du dispositif Pinel pour faire des choses très bien, mais profitez-en quand même.
Bon, pour cette fin d'année, on n'a pas que de limo quand même à faire, si.
Et non.
On a d'autres produits sur lesquels on peut travailler.
Eh ben, il y a ce fameux produit. Alors, je vais pas être le premier à en parler. Il y a le plan d'épargne retraite, qui est quand même
PER.
Oui, parce que pendant des années, le PERP, le plan d'épargne populaire, qui était son ancêtre, avait été mal construit, en tout cas c'était mon avis, et puis surtout il était très mal présenté par les banques, parce qu'il était très fermé, très cloisonné, il y avait peu d'offres. Mais depuis quelques années, le PER, a fortiori la dernière bouture qui permet en plus des modalités de sortie beaucoup plus large, a surtout une structure même de produits très proche d'une assurance vie classique, avec des centaines...
On rappelle, l'idée c'est qu'on a mis dans un seul, entre guillemets, et même produit, quasiment l'ensemble
des dispositifs.
Produits retraite.
Mais au-delà de ça...
Pour les commander tous.
Même si vous êtes un couple de salariés et que ça n'aurait rien changé, vous auriez affaire au PER individuel, le PER1 si on l'appelle comme ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez accès au même fonds euro que dans des contrats d'assurance vie multi-support très ouverts. Plusieurs types de comptes de fonds euro. Vous avez accès à des centaines d'unités de compte. Donc des unités de compte thématiques, immobilières, de l'ultra-finance. Vous avez accès à des produits structurés comme dans un compte titre ou un contrat d'assurance vie. Donc ce problème qu'avait son ancêtre était très cloisonné, l'établissement X avait son produit avec trois fonds terminés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de proactivité dans un produit de placement. Et parce qu'il y avait, là aussi, une déduction fiscale du plan d'épargne retraite pour se préparer sa retraite plus tard, on se disait que ça suffisait pour que les Français y aillent. Non, parce qu'ils ont quand même une culture financière minimum, contrairement à ce qu'on croit.
Ils n'aiment pas trop les produits tunnels, etc.
Alors qu'il y a une intelligence à avoir, à se donner du temps dans un produit de long terme, parce que quand même l'objectif c'est de préparer sa retraite, pas y toucher, mais que pendant le temps où vous capitalisez, vous pouvez jouer intelligemment une stratégie sur vos placements, y compris sur les versements. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et que je vous disais que c'est très bien d'en parler aujourd'hui, parce que évidemment, le mieux, c'est de faire des versements programmés
régulier.
Tous les mois, réguliers. Qu'on soit salarié, indépendant, peu importe, on le fait régulier. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi des investissements de façon progressive sur les marchés. On n'investit pas d'un coup dans un domaine. Tous les trimestres, on fait un point. Et
en moyenne, intelligemment,
on peut faire du thématique. On fait un peu d'intelligence artificielle. Puis le trimestre d'après, si on s'intéresse, on se dit on va plutôt faire des valeurs de croissance, etc. Je passe le détail. En fin d'année, en revanche, et c'est pour ça qu'on en parle en septembre en général, on fait le point. Parce qu'on a touché des primes, parce que les professions libérales se sont versées des bénéfices, des choses comme ça. Et c'est le moment peut-être, si on n'a pas atteint ces plafonds auxquels on a droit, de mettre au maximum sur son plafond pour optimiser la partie fiscale, tout en ayant, comme pour l'immobilier, le réflexe de se dire que ça reste un placement financier et que son premier réflexe n'est pas de le faire pour déduire, mais pour gagner de l'argent.
Pour investir.
Investir, voilà. Pour que ce produit soit rentable. Et il le sera d'autant plus puisqu'il y aura une déduction fiscale qui vous permettra l'année d'après, lorsque vous toucherez votre réduction d'impôt qui vient de cette déduction, de pouvoir verser presque plus l'année d'après en faisant comme ça tourner cette machine. Et si vous comptez sur 20, 30, 40 ans, peut-être pas, mais 20 ou 30 ans de capitalisation, c'est un produit qui est extrêmement exponentiel de résultats.
Pour ceux qui vont commencer leur épargne, peut-être qu'on arrivera à 40 ans.
Non, mais c'est vrai que je vous dis ça en rigolant, parce qu'on est de la même génération, vous vous rappelez. Quand vous expliquez à un jeune de 25 ans qu'il faut qu'il ouvre un plan d'épargne retraite, le terme plan d'épargne retraite, ça le surprend. Sauf que quand vous lui expliquez qu'à l'intérieur, je caricature, vous pouvez mettre du Nvidia, je caricature, là, à ce moment-là, ça commence à lui parler. Parce que dans un plan d'épargne retraite, vous pouvez mettre des valeurs extrêmement parlantes de consommation, du e-gaming, de la grande technologie, qui parle également aux jeunes. Et intellectuellement, s'il commence à 25 ans, à 65, 67, 68, on verra ce que dira M. Barnier, normalement, il aura un petit pécule pour ses vieux jours.
Merci beaucoup Stéphane.
Je vous en prie, merci de
l'invitation. Et SVH Conseil. Et puis on vous rappelle, tiens, si vous aviez envie d'être toujours convaincu de l'idée de commencer tôt votre épargne, de regarder Yann de Floren. Il était la semaine dernière sur le plateau pour Modo Patrimoine et il nous avait parlé des intérêts composés. On n'en est pas loin quand on parle de tous ces produits-là. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.